Bonsoir, comment allez-vous? Dans son livre au titre génial « Foutez-vous la paix » édité chez Flammarion, Fabrice Midal raconte un souvenir d'enfance. Le concours de Château de Sable. Lui se lance dans un magnifique château avec tours, douves, donjons, créneaux, pont-levis. Hélas, à la sonnerie de fin, il n'a pas du tout fini. Sa sœur avait réalisé une coccinelle. Habilement décorée, elle a eu le premier prix. S'il s'est réjoui pour sa sœur, il était furieux à cause d'une impression d'injustice. Elle n'avait pas respecté la consigne. Et vous, qu'en pensez-vous? Avec le temps, Fabrice Midal pense qu'elle a bien fait et que lui, en étant trop discipliné, est allé dans le mur. Obéir, oui, bien sûr, il est pour et archi pour. Mais il propose aussi de nous libérer des carcans qui nous emprisonnent. Pour un examen ou un entretien, il faut travailler beaucoup, répéter encore et encore. Mais ne pas vouloir tout contrôler. Être prêt à se foutre la paix le moment venu. Pour avoir la présence d'esprit nécessaire face à une question imprévue, par exemple. Il dit que c'est comme ça que le footballeur marque un but génial ou que Einstein a une intuition puissante. Se foutre la paix, oui, s'appliquer, oui, jusqu'à la crispation, non, mais comment?
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je dis souvent, il faut méditer 5 à 10 minutes par jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste méditer?
Alors, Fabrice Midal, vous êtes le fondateur de l'école occidentale de la méditation.
Alors, méditer, on pourrait dire, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire rentrer à la maison. On fait plein de choses, et quand on médite, on s'assoit, on rentre à la maison, et c'est déjà, on a tous besoin à un moment de rentrer à la maison, c'est tout simple, on arrête de courir, de faire plein de choses, on prend un temps, on rentre à la maison. La deuxième manière de dire ce qu'est la méditation, c'est on apprend à faire attention. L'attention, c'est un peu comme un muscle, il faut l'entraîner. Et la méditation, c'est un entraînement de l'attention, et on en a d'autant plus besoin aujourd'hui, qu'avec l'infobésité et les textos et tout ça, on perd vraiment la capacité de faire attention. Du reste, c'est ce que disent la plupart des enseignants et des professeurs. L'obstacle qu'ils ont, c'est que les enfants ne savent plus trop comment faire attention. Ils ont, dès qu'il ne se passe pas quelque chose, ils s'ennuient. Alors que faire attention, c'est accepter que les choses ont une certaine durée, une certaine lenteur, de prendre le temps. Et donc la méditation nous aide à apprendre à faire attention. La troisième manière de décrire la méditation, c'est que on ne fait rien. On est assis, on est présent, et on ne fait rien. Et on découvre que si on ne fait rien, eh ben, il se passe plein de choses. Nos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes, on entre complètement en rapport avec le monde, on voit des choses, on entend. Les pores de notre peau sont en rapport à la température, par exemple. Puis après, on se rend compte qu'on respire. Et simplement en respirant, on se met en rapport à la vie. On dit oui à la vie, parce que la respiration permet à tous nos organes de rester vivants. Et on est là, alors il peut y avoir des pensées, des émotions, des inquiétudes, et on ne fait rien. On note ce qu'il y a, mais on ne fait rien. Et ce geste-là nous redonne un sens d'ancrage dans le présent extrêmement fécond. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est bon aujourd'hui de pratiquer 5 à 10 minutes par jour comme on se lave les dents. C'est une forme d'hygiène, une forme d'éthique pour essayer de rester un être humain ouvert et disponible.
Eh bien, on va s'y mettre. Fabrice Midal, merci. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous avez demandé pourquoi avec deux yeux, finalement, nous ne voyons qu'une image, si princesse, c'est un métier, et pourquoi les cochons sont roses et que les cochons sauvages sont noirs. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Annabelle, j'ai 6 ans et je veux savoir comment l'eau passe dans les racines des plantes.
Annabelle, nous proposons ta question à Catherine Laine, enseignante-chercheure en physiologie végétale à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, auteure de « Dans la peau d'une plante », édité chez Belin. Vous comprenez, Catherine Laine, la question d'Annabelle?
Elle évoque là ce qu'on appelle la nutrition minérale de la plante. Donc cette plante, elle a besoin d'eau et de minéraux, donc elle a besoin d'eau minérale, qu'elle puise dans le sol au niveau des racines. Donc comment ça rentre? Alors d'abord regardons les racines, comment c'est fait. D'abord, un appareil racinaire de plante, c'est extrêmement ramifié, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petites racines. On parle même de chevelure racinaire, donc vous imaginez la chevelure, exactement, c'est très fin. Et effectivement, l'eau va rentrer par les extrémités de ce chevelu, c'est-à-dire là où les racines sont les plus fines, pas loin des pointes. Donc pas loin des pointes, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve théoriquement, et vous comprendrez pourquoi je dis théoriquement, parce que quand on est dans un laboratoire ou dans sa cuisine et qu'on fait germer un haricot, on va voir pousser la racine, puis on voit que la pointe se couvre un petit peu derrière, 1 ou 2 millimètres derrière, de poils.
Tiens.
Il y a plein de poils qui apparaissent, et ça, ces poils, on les appelle des poils absorbants, parce que justement, ils sont spécialisés dans l'absorption de l'eau.
Bien.
Alors, un poil, c'est quoi? C'est une cellule très allongée.
Oui.
Très fine, la paroi est très fine et perméable, et l'eau va rentrer préférentiellement par ses poils. Alors, le moteur de l'entrée, c'est quoi? C'est qu'on a, l'eau physiquement va toujours circuler d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de substances dissoutes, vers un endroit où il y a beaucoup de substances dissoutes, comme pour diluer cet endroit-là et équilibrer les deux compartiments. Donc la racine, en fait, elle est chargée de substances, il y a des sucres dans ses cellules, et puis elle absorbe les minéraux du sol et elle les concentre à l'intérieur de ses tissus. Donc passivement, l'eau va rentrer dans la racine par les poils parce qu'il y a beaucoup de substances dissoutes à l'intérieur de la racine.
C'est bien parce que les racines, on les voit jamais, en fait.
Oui, c'est vrai. Elles sont dans le sol, on les voit pas. Et alors, tout à l'heure, j'ai dit théoriquement, Noël. J'ai dit...
Alors, en vrai, c'est pas ça.
Parce qu'en vrai, dans la nature, le poil absorbant, il n'existe quasiment pas.
Ah bon?
Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des plantes vivent au niveau de leurs racines en association avec des champignons.
Ah.
Donc, il y a des champignons dans le sol. Alors, on pense aux champignons, celui qu'on ramasse sous les arbres. En fait, quand je parle champignon, là, j'évoque le vrai champignon, celui qui se trouve dans le sol sous forme de filaments.
D'accord.
Ça s'appelle un mycélium.
C'est pas un bolet.
Le bolet, c'est l'organe sexuel du mycélium. Donc, il va faire apparaître de temps en temps ses organes sexuels pour se reproduire. Par contre, donc dans le sol, on a énormément de filaments de champignons. Et ces filaments s'associent, viennent emballer les racines pour leur faire des petits manchons. Et c'est à ce moment-là ces filaments qui vont absorber l'eau et les minéraux dans le sol de manière beaucoup plus efficace que la plante, parce qu'il y a énormément de filaments. Hein. On estime qu'il y a 1 kilomètre de filaments mycéliens pour 1 mètre de racines.
Oh là là.
Vous voyez, donc ça augmente énormément la surface d'absorption de la plante. On appelle ça une symbiose. Hein. Les deux êtres vivent en symbiose. Le champignon fournit l'eau et les minéraux à la plante. Et la plante lui fournit des sucres, puisque lui, il ne peut pas faire de photosynthèse, il n'a pas de chlorophylle.
Ah, voilà. C'est une aide intéressée.
Voilà.
L'union fait la force.
Thank you, my lord.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Il y a des allumettes au fond de ses yeux. Des pianos à queue dans la boîte aux lettres. Des pots de yaourt dans la vinaigrette. Et des oubliettes au fond de la cour.
Tête en l'air, pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est une chanson. C'était Jacques Higelin.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le 30 avril dernier à 7h15 du matin sur France Inter, quelqu'un que je ne nommerai pas pour évoquer un dirigeant a dit un leader au lieu de dire un leader. Aucune importance, nous avons très bien compris. Et pourtant, en français, l'heure n'est pas du tout synonyme de l'air, ni de l'or, ni de l'art, ni du lard, ni du cochon d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi les cochons sont roses et les cochons sauvages sont noirs. Merci de me répondre. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 6 ans, je voudrais savoir pourquoi les cochons sont roses. Merci, au revoir.
Alors Louisa et Félix, nous avons bien évidemment proposé vos questions à un éleveur de cochons, Nicolas Brahic.
Bonjour Félix, bonjour Louisa. Donc les cochons, ils sont roses, ils sont noirs. En fait, ça dépend du mode d'élevage. On a sélectionné au XVIIIe siècle beaucoup de cochons pour avoir de plus en plus de petits et faire beaucoup de viande. Et ces cochons avaient, on va dire, un aspect normalement plus foncé. Et vu qu'on les a sélectionnés et puis à l'abri de la lumière et reproduits entre eux, en fait, on a, c'est une théorie, mais on a dépigmenté leur peau.
Les vôtres sont de quelle couleur,
alors,
Nicolas?
Moi, j'ai beaucoup de cochons tachetés, noirs, roux. J'ai encore un petit peu de rose parce que vu qu'il y a eu beaucoup de croisements pour retrouver ce cochon du Larzac, on a encore quelques-uns qui ressortent roses, mais tachetés aussi. Mais globalement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tachetés avec du poil. Alors que la plupart des cochons de bâtiment n'ont plus beaucoup de poils et ils sont très roses. En fait, ils ne voient jamais le soleil.
Ah ouais, c'est affreux.
Voilà. Donc on a en fait enlevé une des capacités de résistance au soleil. Parce que les cochons roses, lorsqu'on les sort de bâtiment et qu'on les met dehors, ils ont d'affreux coups de soleil et ils souffrent énormément.
Ah ouais. Sauf s'ils se roulent dans la boue, ça les protège.
Alors là, oui, mais voilà, si on est en hiver et qu'il y a un très beau soleil, ils ont des sacrés coups de soleil, ah comme ouais. Nous quand on va au ski. Hein.
Ah, les pauvres. Ouais. Mais d'ailleurs, les pays où on voit des cochons en liberté, ou qui ont l'air d'être en liberté, en tout cas, quand on voit des cochons traverser la route et courir dans les espaces, sont toujours noirs.
Oui. Alors après, il y a des cochons plein air qui sont roses, hein, il faut pas diaboliser. Ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu moins roses. Hein. Ils ont une couleur un peu plus ambre. Donc c'est une adaptabilité au soleil.
Pauvre cochon qui souffre de coups de soleil. Alors moi, un pauvre cochon, enfin ça dépend où il habite. Ce Nicolas Brahic, il nous a dit qu'ils avaient comme espace à leur disposition un terrain de football. C'est pas mal, par tête de cochon. Alors hier, c'était le mariage. C'était le mariage de mon cousin, mais c'était aussi le mariage de Harry et de Meghan. Ils se sont mariés à Windsor, à une 50aine de kilomètres de Londres. Vous n'étiez pas invité? Eh ben, moi non plus.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 6 ans et je voudrais savoir est-ce que être princesse c'est un métier, merci.
C'est à vous, Stephen Clark, que nous proposons cette question de Mathilde. Est-ce que être une princesse c'est un métier? Puisque vous venez d'écrire chez Albin Michel, Elisabeth II ou l'humour souverain.
Ah oui, bonsoir Mathilde. Oui, c'est un métier et la bonne nouvelle c'est qu'il ne faut pas faire beaucoup d'études forcément. Et je pense que Meghan Markle, la femme de Prince Harry, maintenant, elle va l'apprendre très vite, que c'est un vrai métier. Il faut toujours être à l'œil public, il faut toujours être bien habillé, souriant. C'est vraiment un métier de relations publiques en permanence. Et il faut dire que c'est pas beaucoup de travail vraiment, mais les membres de la famille royale, y compris de certaines princesses et des princes pas très connus, travaille beaucoup. J'ai lu par exemple que la princesse Anne, qui est la fille de la reine, qui n'est pas hyper connue à l'étranger, c'est la membre de la famille royale qui travaille le plus. Elle a fait, en 2017 apparemment, elle a fait presque 500 événements. Alors un événement, ça peut être prendre le thé avec un diplomate ou visiter une école ou avoir rendez-vous pour décider de la couleur de papier peint à Buckingham Palace, mais 500 rendez-vous officiels. Et apparemment, la reine aussi, elle, tous les jours, littéralement tous les jours, elle regarde des papiers officiels, elle travaille. Donc, c'est un travail de représentation, tous ces gens-là représentent une marque, en fait. C'est comme une marque. On voit Princess Kate, par exemple. Elle est sortie de l'hôpital, genre, quelques heures après avoir accouché pour montrer son bébé à la presse. C'est un peu dur, quoi, pour une femme. Mais ça fait partie de sa fonction. Actuellement, Kate, elle ne fait pas beaucoup d'événements parce qu'elle élève les enfants. Son rôle maintenant, c'est un peu genre la maman de la future génération royale. Donc elle ne fait pas grand chose. Mais une fois que ses enfants sont plus grands, elle va commencer à visiter des écoles, des hôpitaux, des trucs comme ça, faire le tour du Commonwealth. Prince Charles fait énormément de visites à l'étranger, visiter les pays du Commonwealth, qui, c'est pas notre empire, mais c'est, le Commonwealth réunit apparemment 53 pays, et la Grande-Bretagne reste en contact avec ces pays grâce un peu à la famille royale. Donc, oui, c'est un métier, ça a l'air peut-être simple, juste de porter des vêtements et sourire pour la presse, mais quand c'est 24 heures par jour, personnellement, j'aimerais pas être princesse. Il n'y a pas de danger, mais je suis assez soulagé.
Bon, ça tombe bien. Stephen Clark, lui dit Stephen, mais en fait ça s'écrit Stephen, a donc écrit Elisabeth II ou l'humour souverain chez Albin Michel. C'était extrait du dernier disque de Charlotte Gainsbourg. Pour poser une question au petit bateau, eh bien vous faites le 01 56 40 43 57 et nous trouvons un spécialiste pour vous répondre.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas une séparation entre les deux yeux quand on regarde quelque chose. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 8 ans. J'adore votre émission. Normalement, avec nos yeux, on devrait voir une partie à gauche, puis une coupure, puis une partie à droite. Je voudrais savoir pourquoi on a l'impression de voir avec un seul œil au milieu alors qu'on en a deux. Merci.
Merci Gabriel et Clément, des observateurs. C'est ce que vous avez fait toute votre vie, observer. Professeur Jean-Claude H, vous êtes médecin neuro-ophtalmologiste. Que pouvez-vous leur répondre? Deux yeux, une seule image?
Ben oui, mais je vais leur répondre déjà en leur faisant faire une petite expérience. Avec la main droite ou la main gauche, ça n'a pas d'importance, on bloque sa tête pour ne pas la tourner ni à droite ni à gauche. Et puis, on bouge ses yeux, on regarde à droite et on regarde à gauche. Quand on bouge ses yeux, est-ce que l'image bouge? Non. Le monde autour ne bouge pas. Alors que quand on prend une caméra et qu'on tourne une caméra, l'image bouge. Mais quand on tourne ses yeux, l'image ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on regarde avec son corps. Les yeux prennent des morceaux d'image et vont les stocker dans le cerveau, quelque part derrière le cerveau, là, on appelle ça le lobe occipital. Et bien sûr, les images des deux yeux sont refondues en une seule image. Et ça donne une perception unique. La preuve aussi, c'est que les enfants qui louchent et qui devraient voir deux images, eh bien l'image de l'œil qui louche est supprimée par le cerveau pour ne garder qu'une image. Et donc, ce dont on prend conscience, c'est ce qui est dans le cerveau et pas ce que nous donnent les yeux. Alors il faut savoir en plus que la partie extrême à droite, elle n'est vue que par l'œil droit, parce que l'œil gauche, il y a le nez qui l'empêche de voir. Puis la partie à l'extrême gauche, elle n'est vue que par l'œil gauche, parce qu'il y a le nez qui empêche l'œil droit de voir de ce côté-là. Donc, l'ensemble du champ de vision des deux yeux, eh bien, il y en a une partie qui appartient aux deux yeux, puis une partie qui appartient à l'œil droit, et une partie qui appartient à l'œil gauche.
C'est donc le cerveau qui traite les infos que les yeux lui donnent, et c'est le cerveau qui nous fournit ce qu'on voit.
Mais oui, mais la preuve aussi, c'est que quand vous penchez la tête à droite ou quand vous penchez la tête à gauche, les images restent droites.
Mais oui, c'est vrai.
Alors que si on met l'appareil photo, l'image tourne. Pourquoi ? Parce que les images sont redressées par nos capteurs de position. C'est-à-dire que, en permanence, le cerveau sait comment est votre tête et redresse les images.
Ce que je trouve dingue, c'est la vitesse à laquelle le cerveau travaille. Parce qu'il n'y a pas de temps.
Vous pensez qu'il n'y a pas de temps. En fait, il y a un tiers de seconde. C'est-à-dire que c'est loin d'être négligeable. Et alors, bizarrement, les singes vont beaucoup plus vite que nous parce qu'ils ont un cerveau plus petit. Eux, ils mettent un quart de seconde. Avec nous, on met un tiers de seconde pour prendre conscience de ce qu'a vu l'œil.
Pour réécouter cette question, eh bien vous pouvez aller sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Vous pouvez également réécouter l'émission en entier ou bien la podcaster. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Anne-Laure Cochet, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham. Jean-Baptiste Audibert, lui, s'est occupé de la programmation musicale.